On est de retour dans la game. Alex Langto et Oli Guy avec vous jusqu'à 14h. On se transporte dans la région du 96.5 en Outaouais. On s'en va rejoindre Zach Mercier du journal Le Droit d'Ottawa à Gatineau. Comment ça va, mon ami?
Ça va toujours bien, messieurs.
Good. Merci encore une fois de prendre du temps avec nous. Tu voulais nous jaser des Sens aujourd'hui. À quel genre de saison tu t'attends? Quelles sont tes attentes envers ce club-là pour la saison prochaine?
Ouais, ben c'est quand depuis les dernières chroniques, là, écoute, depuis les derniers jours, on en a parlé beaucoup des Sénateurs, un peu comparer les formations, voir un peu de quoi ça avait l'air. On n'a pas parlé un peu en détail de ce à quoi on peut s'attendre de cette formation-là. Puis c'est ce que sur là-dessus je voulais me pencher parce que je trouve que c'est une formation qui, l'an dernier, a connu une excellente saison, a réussi finalement à passer la barrière, à se tailler une place en série. Mais là, ce que j'analysais un peu plus profondément cette équipe-là, écoute, il n'y a aucun joueur au-dessus du point par match l'an dernier, là, ce qui est assez rare quand même dans une formation où est-ce qu'on participe aux séries éliminatoires. On n'a pas eu de joueurs qui ont vraiment connu une saison incroyable, qui a vraiment transporté sa formation. Le seul qui a peut-être connu les moments les plus inattendus, c'est peut-être Levi Mäkäräinen devant le filet, comme quoi il est rentré un peu comme à la Jakob Dobesch, fait ses entrées par la grande pompe et a connu du succès très, très rapidement. Mais outre lui, écoute, ça a été relativement tranquille, surtout lorsqu'on regarde les chiffres offensivement. Tim Stutzla, meilleur pointeur de l'équipe à 78 points. Par la suite, 68 points Drake Batherson. On tombe à 57 points avec Jake Sanderson, 55 Brady Ketchuk, Claude Giroux, 50. C'est les seuls joueurs qui ont fracassé le plateau des 50 points l'an dernier chez
c'est
les Sénateurs.
Beaucoup.
C'est quand même, ouais, c'est très peu, justement, quand on regarde une formation qui a fini la saison avec 45 victoires. C'est assez impressionnant. Et c'est pour ça que moi, je m'attends beaucoup à ce que les Sénateurs prennent un autre pas vers l'avant, parce qu'on n'a pratiquement rien changé dans la formation. Il y a seulement les éléments du quatrième trio, deux joueurs du quatrième trio en Larceller, et puis on a ramené finalement Nick Cousins. Donc finalement, le seul joueur qu'on a vraiment changé dans la formation régulière, tout le monde, ce qui est projeté, ça devrait être Larceller. Sinon, on a re-signé un peu tout le monde, re-signé Claude Giroux, Fabien Zetterlund aussi. Donc écoute, pour moi, il y a assurément du potentiel chez les Sénateurs, puis le DG Steve Staios, depuis son arrivée, parle beaucoup de internal growth, donc vraiment la croissance à l'intérieur même de l'équipe, qu'il mise un peu sur la constance, sur la stabilité pour justement prendre un pas vers l'avant. Puis avec une saison de plus derrière la cravate d'un peu tout le monde, puis avec Travis Green qui maintenant, écoute, l'an dernier c'était un peu effet de nouveauté, arrive une première saison, là tout le monde va être un peu mieux établi, comprend un peu mieux comment ça se passe, puis on va être beaucoup mieux aligné pour la prochaine saison.
À quel point tu trouves la formation profonde? Parce que T'as un beau premier trio en Stutzla, Ketchuk, Zetterlund, mais quand tu descends d'avoir un David Perron qui a 37 ans, qui termine son contrat cette année, je veux dire, son temps achève aussi, puis après ça, tu tombes avec un Claude Giroux sur ton troisième trio à droite, qui lui aussi a 37 ans, qui t'a re-signé cette année. T'as un Shane Pinto qui est un excellent joueur de centre. C'est parfait pour le troisième trio, mais il me semble qu'il manque un petit quelque chose aux Sens encore.
Peut-être qu'il manque un ailier. Parce que je pense que la ligne de centre là, avec un Stutzla, Cousins, Pinto, ouais. Écoute, difficile à battre. Ça fait quand même partie, à mon opinion, probablement du premier tiers de la Ligue nationale de hockey. Quand même, surtout que c'est des trois centres de jeunes. C'est le jeune. Écoute, Cousins, c'est le plus vieux de la gang. Là, c'est comme, puis il est mi-vingtaine, il y a à peu près mon âge.
Ouais, il y a 24 ans, Dylan Cousins.
Exactement, comme son numéro. Puis c'est ça. C'est justement, c'est des jeunes joueurs qui sont encore une fois, qui ont du potentiel. Puis effectivement, que peut-être un ailier pourrait aider pour justement peut-être permuter un David Perron peut-être sur d'autres trios inférieurs, sur un troisième trio. Mais l'an dernier, écoute, le meilleur trio des Sénateurs, en tout cas dans mon humble avis, surtout à la deuxième moitié de saison, c'était Pinto Amadio avec David Perron. Là. Écoute, c'était tout un trio l'an dernier. Puis écoute, même un Ridley Gregg aussi qui a parfois fait son apparition un peu sur ce trio-là. Donc vraiment, là, je pense qu'on a quand même des bons éléments qui peuvent nous surprendre. Quand on a un Gregg, un Pinto, un Claude Giroux sur un troisième trio, est-ce qu'on a peut-être pas nécessairement le punch offensif ou à tout le moins les super vedettes de certaines autres formations? Non, à l'attaque. Mais je pense qu'on est quand même assez profond où est-ce qu'on peut se permettre d'avoir un Cousins, Batherson, Perron sur un deuxième trio, un Gregg, Pinto, Giroux, lequel est véritablement ton deuxième trio? Écoute, à un certain moment, j'imagine que ça peut être interchangé, mais d'avoir trois trios avec cette profondeur-là quand même, écoute, pour moi, c'est du luxe, puis d'avoir un Larceller qui peut quand même donner des services fiables défensivement, un Amadio puis un Cousin sur un quatrième trio, écoute, pour moi, c'est quand même une bonne profondeur pour une formation qui veut aspirer aux séries éliminatoires. Écoute, on a quand même un bon mix, là, surtout à l'attaque, puis à la défensive, c'est un peu la même chose. Est-ce qu'il manquerait idéalement un autre défenseur top 4 potentiellement. Mais écoute, ça ne court pas les rues. Puis je pense que Steve Steele s'est laissé un peu de la marge de manœuvre à cet été en ne dépensant pas tout l'espace qu'il a sur le plafond.
Moi, il y a 4 millions de plus encore, là.
Exactement. Donc, c'est quand même garder un petit peu de marge de manœuvre parce que, justement, on pourra voir selon les blessures ici et là. Si Nick Jensen ne commence pas la saison pour être placé sur la liste des blessés à long terme, est-ce que ça pourrait lui donner une flexibilité ailleurs aussi, économiser quelques dollars? Bref, toutes les options sont sur la table, mais je pense qu'on a quand même une très bonne formation chez les Sénateurs d'Ottawa.
Zach, on est un peu aveuglé par le Canadien puis la gestion que font Kent Hughes et Jeff Gordon en ce moment avec le CH. Mais pour ceux qui le connaissent un peu moins, quel genre de DG c'est Steve Steele? Qu'est-ce que t'as pu remarquer ou qu'est-ce que tu trouves qu'il dégage depuis son arrivée à Ottawa?
C'est le calme. Son surnom que la plupart des personnes lui donnent, c'est Steady Steve. Donc,
okay.
C'est justement qui est vraiment au niveau de la constance. Toujours très calme quand il s'adresse aux médias, toujours très posé aussi, dans sa personnalité aussi, très calme, très posé. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui mise justement, qui fait pas des mouvements ineffectifs pour rien. T'sais, c'est pas quelqu'un qui va appuyer sur le bouton panique dès que son équipe perd quelques rencontres ou se dit « je dois absolument changer la dynamique, je dois changer quelque chose ». C'est vraiment, tout est calculé dans son cas. Puis c'est justement, effectué du très bon travail, sincèrement, depuis son arrivée en poste. Il n'a pas effectué 1 million de mouvements, sincèrement, pas effectué plusieurs transactions, mais quand même effectuer des mouvements clés à des moments importants. On parle d'un Dylan Cousins, un Fabien Zetterlund. Pas payé très cher pour un Fabien Zetterlund. S'il est capable d'arriver ici, là, puis de marquer 30 buts, jouer sur un premier trio, à tout le moins jouer sur les deux premiers trios, on a simplement donné un choix de deuxième round et un autre choix. Donc, c'est pas vidé non plus. Surtout qu'il fait un peu de la magie parce que les Sénateurs d'Ottawa n'avaient pas beaucoup de munitions. Là. Leur banque d'espoir est pas mal à sec. Outre Carter Yakimchuk, le restant, on a évidemment Logan Enster qui vient tout juste d'être repêché, un autre défenseur droitier. Mais sinon, là, c'est assez mince. On a un Blake Montgomery qui a connu une bonne saison l'an dernier. On a un Stephen Holliday, mais qui est un peu plus vieux, connaît des bons moments à Belleville. Mais sinon, c'est très, très mince. Ce n'est pas des espoirs de grande qualité comme le Canadien ont en banque. Donc, c'est un peu de manœuvrer avec ça, avec peu d'espace salarial, avec des munitions un peu amoindries. Puis, il faut pas oublier que les Sénateurs devaient décider l'an dernier s'ils décidaient de donner leur choix de première ronde de l'an dernier ou du prochain repêchage en raison de la pénalité qui a été imposée avec l'échange Evgeny Dadonov qui avait avorté à tout le monde avec la clause de non-mouvement, etc. Donc, les Sénateurs espèrent toujours d'avoir une souplesse à la Ligue nationale de hockey, que la Ligue nationale change leur fusil d'épaule. Mais pour l'instant, c'est pas dans les plans. Donc, n'ont pas de choix de première ronde au prochain repêcheur, c'est une autre mission de moins du côté des Sénateurs pour justement tenter de faire une transaction, s'améliorer à la date limite des échanges.
Deux dernières questions pour toi. Il y a Mamadou qui nous demande par le messagerie texte, est-ce que tu penses que Carter Yakimchuk va faire l'équipe? Il hésite à aller le chercher dans son pool keeper.
Ben écoute, pour un pool keeper, moi je l'ai, puis je suis bien content, puis je sais c'est ce que je ferais, j'allais dans mes deux pool keepers en fait.
Okay.
Fait que je pourrais justement, je suis bien blasé pour en parler, mais moi je le prendrais assurément dans un pool keeper. Est-ce que cette année ça va être sa saison la plus payante? Évidemment pas. Moi je pense que justement il y a une certaine congestion si à droite là Jensen est de retour, on a quand même un Zub, Jensen, Martin Paolo, puis on a le nouveau venu Jordan Spence. Donc ça fait quand même du trafic à droite. Je pense que à partir de la saison prochaine va avoir un rôle beaucoup plus prédominant, mais de faire la transition, surtout que c'est un joueur qui est late, donc il va être quand même parmi les plus jeunes un peu de sa catégorie d'âge, donc je pense qu'il va pouvoir faire le saut dans la Ligue américaine, va jouer des matchs à Ottawa cette année, je suis convaincu qu'il va jouer des matchs, mais est-ce qu'il va jouer à temps plein à Ottawa? S'il n'y a pas de blessure, non. S'il y a des blessures, il pourrait être une belle surprise, puis on pourrait le voir utilisé à certains endroits, mais si c'est un pool keeper, je dirais assurément de le repêcher. Si c'est un pool juste uniquement pour cette année, je serais patient.
Dernière question pour toi. La saison dernière, les Sénateurs, c'est 45 victoires, 30 défaites, 7 autres en surtemps pour 97 points. C'était bon pour le quatrième rang de l'Atlantique. Une place de wildcard pour les Sens en série. C'est 6 points devant le Canadien. Un seul petit point derrière les Panthers de la Floride. Est-ce que tu t'attends à ce qu'ils régressent, à ce qu'ils progressent ou à ce qu'ils stagnent cette année, les Sénateurs d'Ottawa?
Moi, je m'attends à une progression parce que justement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a des joueurs que l'an dernier, ça a été plus tranquille. On a vu, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent connaître une meilleure saison, qui vont encore graduer. On parle des jeunes joueurs comme Ridley Gregg, Shane Pinto, qui peuvent prendre un pas. Brady Tkachuk, l'an dernier, a joué blessé la deuxième moitié de saison, a manqué quelques matchs. En série d'entrée aussi, était blessé. On a Tim Stützle qui commence à appréhender son rôle de joueur des deux côtés de la patinoire, qui va lui aussi, je m'attends à ce qu'il puisse fracasser la barrière des points par match la saison prochaine. Puis peut-être même flirter avec les 90 points. On a Thomas Chabot à la défensive qui, l'an dernier, pour la première fois de sa carrière, a une saison pour côté positif, plus 17 l'an dernier, deuxième rang chez les Sénateurs d'Ottawa avec Nick Jensen. C'est tous des joueurs. Puis Jake Sanderson, évidemment, en pleine progression. Donc, je m'attends à ce que ce noyau-là continue de progresser à l'interne avec une deuxième saison sous les ordres de Travis Green, qui puisse pousser encore une fois. Puis pour moi, ils ont une très bonne chance, ou à tout le moins, ils ont une chance très légitime de pouvoir pousser pour faire partie des trois premières formations. Les Maple Leafs ont perdu des gros morceaux avec un Mitch Marner. L'Acne et Tampa Bay continuent pas nécessairement à s'améliorer, continuent à vieillir. Le noyau aussi qui est là en place. Puis les Panthers de la Floride, ils ont quand même, ils partent assurément favoris avec le noyau qu'ils ont en place. Mais je pense qu'ils peuvent assurément aspirer, terminer parmi les trois premières formations et avoir potentiellement l'avantage de la glace là, lors du premier tour des séries éliminatoires. Donc, écoute, c'est une saison excitante du côté des Sénateurs, assurément du côté des Canadiens aussi, mais chez les Sénateurs, on a vraiment misé sur la stabilité de la formation. Puis écoute, on va voir du gros hockey, ça va être le fun.
Zach, passe un super beau week-end, mon ami, puis on se retrouve lundi pour une dernière semaine ensemble.
Certainement, un gros merci, puis à bientôt, mon cher.
Yes, ça marche. Bon week-end. Salut, Zach.
Bye, Zach.